Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Pascal Massirika à la présentation.
Les titres de l'actualité, 13 morts et 5 survivants. Bilan d'un accident de circulation survenu cet après-midi au quartier Badara dans la commune de Lancélé à Kinshasa. À la base du drame, un taxi-bus D107 a fini sa course dans un camion. Tête à tête ce matin entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et le cardinal Frilolé Ambongo à la Cité de l'Union africaine, l'archevêque de Kinshasa parle des moments de clarification que le chef de l'État congolais avait accepté à sa demande. Notre invité, c'est le directeur général de l'Office national pour la promotion de la stabilité de la famille, Désiré Isseloko, parle du rôle de la famille dans la lutte contre le réchauffement climatique. Madame, messieurs, bonsoir. 13 personnes sont mortes cet après-midi à Kinshasa dans un accident de circulation sur le boulevard Lumumba au quartier Badara dans la commune de Lancélé. C'est le bilan actualisé par le bourgmestre après l'évacuation de tous les corps et une visite aux blessés. Franck Mbo Nzolameso parle de 5 survivants dans un état très préoccupant. Un taxi-bus D107 a fini sa course sous un camion remorque. Il a été joint par Babel Mpongo Massimango.
Il y a 13 corps que nous avons évacués au niveau de l'hôpital général. Il y a au moins 5 blessés qui sont au niveau de l'hôpital D107 ici. Leur état n'est pas vraiment appréciable et j'ai demandé de les transférer rapidement à l'hôpital général. Nous avons déjà dégagé presque la voie en mettant les D107 à côté. Là maintenant nous attendons l'appel mécanique qui arrive pour tirer aussi les grands cas et laisser la voie libre. Nous continuons à recevoir des familles. Le D107 avait un problème de crémaillère qui a bloqué presque les volants. Le chauffeur des grands véhicules, lui aussi, il était discret au téléphone. Nous demandons aux autorités de nous aider. On ne peut pas accepter voir en pleine ville, et très particulièrement dans ma commune de Lancélé. Tous les véhicules qui viennent de ce côté, c'est vraiment un état inacceptable.
Et il semblerait que chez vous, là-bas, on roule à grande vitesse.
C'est ça aussi que je puis quand même aussi à conscientiser les chauffeurs.
Le bourgmestre de la commune de Lancélé, Bon Zolameso, s'insurge aussi contre la circulation le jour des camions remorques. Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. Rencontre Félix Tshisekedi Tshilombo, cardinal Frilolé Ambongo, ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa, à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'État congolais en présence du chargé d'affaires de l'annonciature apostolique. L'archevêque de Kinshasa parle des moments de clarification que le chef de l'État a accepté à sa demande. Le cardinal Frilolé Ambongo s'est confié à Jeff Ngoy.
Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer le chef de l'État. Il m'a donné cette opportunité de le rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction, de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Ben, je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais.
Coup d'envoi à Kinshasa de la campagne électorale à l'Assemblée nationale. Le palais du peuple vibre. 8 candidats pour les 7 postes du bureau définitif renforcent dès aujourd'hui leur visibilité. Des affiches, des calicots, des banderoles et les militants des différents candidats envahissent la cour, l'esplanade, le hall et le mur du palais du peuple. Mais aucun candidat à part Caroline Bemba, candidate, questeur adjointe, n'est venu ce jeudi au Palais du Peuple. Les postes de président, premier et deuxième vice-président, rapporteur, questeur et questeur ayant des candidats uniques désignés par le président de l'Union Sacrée. La bataille reste au niveau du poste de rapporteur adjoint qui revient à l'opposition. Partons maintenant pour le Kwilu ou le village dit Parking Berbé, situé dans le secteur de Wamba, territoire de Bagata, est vidé de ses habitants après les altercations de mardi dernier avec des miliciens Mobondo. Le bilan fait état de blessés graves et de plusieurs maisons incendiées par les assaillants. Cette nouvelle, annoncée par le député national Gary Sakata, est confirmée par le chef du village voisin de Kimomo, Stani Libye, mais le gouvernement central devant ses responsabilités à Bandunduville, Irène Bomaluzolo.
Ces affrontements sont la conséquence des tracasseries perpétrées par les miliciens Mobondo à la barrière érigée à l'entrée du village Parking BRB. Excédée, la population a réagi en cherchant à stopper les assaillants qui ont fait incursion dans ces villages. Stani Libi est le chef du village voisin de Kimomo à Kwamund.
Les fugitifs Mobondo ont tiré de calibre 12. On a enregistré 6 blessés, entre autres l'infirmier titulaire au l'air de santé de Fankulu.
Pour sa part, le député national élu de Bagata, Gary Sakata, qui parle de deux blessés graves, exige des dispositions sécuritaires adéquates pour stopper ces violences.
Le Mobondo continue toujours à semer la panique dans le secteur de Wamba. Ils ont incendié la moitié du village. Ils ont tiré à bout portant sur le responsable de BRB qu'ils ont grièvement blessé. Ils ont également tiré sur l'infirmier titulaire qui se trouve dans un état grave. Nous demandons au gouvernement d'instruire les militaires qui sont à Fatundu de se rendre sur les sites de conflit au moment où je parle. Tout le monde est en forêt.
D'après Martin Souta, président de la société civile de Kwamund, ces miliciens maintiennent leur position dans les villages occupés et dans les forêts à Kwamund. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Affrontement ce matin entre les FARDC et les rebelles du M23 autour de la localité de Kibirizi et la Rwindi dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Des sources concordantes affirment à Radio Okapi que les FARDC tentaient ce matin de reprendre le contrôle de ces espaces qui sont occupés depuis quelques mois par les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. À Goma, le récit de Bernard Nenyangi.
Ces attaques de l'armée congolaise et ses alliés locaux ont repris ce jeudi autour de la Rwindi et Kibirizi après un autre assaut hier mercredi sur l'enclave de pêche de Vichumbi. C'est à cheval entre le groupement Kanyabayonga et Mutanda chez Fride Buito. Les sources locales indiquent que l'armée poursuit ses tentatives de déloger les rebelles, mais les lignes ne bougent pas, reconnaissent ces sources, en raison selon elles d'une forte résistance de l'ennemi. L'intensité des tirs baisse depuis 10 heures locales autour de la Rwindi et Kibirizi, alors qu'une accalmie est observée à Vichumbi ce jeudi, précise nos sources. Par ailleurs, un calme précaire est aussi observé ce jeudi dans le village de Kiondo, près de Nyazale, toujours dans le Buito, après une incursion de courte durée mercredi soir d'un groupe de combattants locaux. En territoire voisin de Masisi, c'est le village de Kashuga, près de Mweso, qui a été tôt ce jeudi une autre cible d'attaque des combattants de NDC rénové de Guidon contre le 1-23. Il n'y a pas assez de détails, mais cela a provoqué entre 6h et 7h locales un déplacement de certains habitants vers Mweso et Kalembe, indiquent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et au sud qui vous voisin, Médecins sans frontières reprend ses activités dans les zones de santé de la partie sud de la province. Cette organisation internationale demande cependant aux habitants bénéficiaires de communiquer urgemment sur des questions sécuritaires. Pour mémoire, Médecins sans frontières était en action depuis 2021, mais sans la présence physique de ses équipes à Fizi, à Mwenga, à Uvira et à Lulenge. Les zones de santé servaient de tremplin, mais aujourd'hui, MSF décide d'envoyer ses équipes sur le terrain selon des conditions sécuritaires. Des précisions avec le chargé de communication de MSF, Zila Noah, au micro de Jean Kassami.
C'est vrai qu'en 2020, nous avions interrompu et nous étions en réflexion pour voir comment appuyer la population, parce que la finalité, même s'il y a l'insécurité, il y a la population qui a besoin de soins. Donc en 2021, l'organisation a commencé à répondre, mais à distance, en collaboration avec les bureaux centraux des zones ainsi que la communauté sur place. Maintenant, nous sommes en train d'implémenter un nouveau modèle d'intervention qu'on pourrait appeler une intervention mixte, qui inclut autant l'appui à distance que l'appui en présentiel, si et seulement si la sécurité est garantie. C'est pour ça qu'on fait un appel assez vif à la communauté du Sud Kivu, Fizi, Kamituga, Kimbilulenge, pour aider MSF à mieux les aider. Ça veut dire en signalant les questions sécuritaires, parce qu'on sait que d'habitude, la communauté est au courant des signaux sécuritaires qui peuvent mettre en danger les humanitaires ou elles-mêmes. Et en remontant ces informations, cela va permettre à MSF à mieux analyser, à mieux comprendre et savoir quand est-ce qu'il faut être sur le terrain.
Revenons ici à Kinshasa, où le procureur général près la Cour de cassation demande au bureau de l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre Nicolas Kazadi et François Rubota, respectivement ministre des Finances et ministre du Développement Rural. C'est depuis le 27 avril dernier, en effet, que Firmin Vondé a adressé son réquisitoire afin d'instruire à charge ces deux ministres du gouvernement central qu'il accuse de détournement des deniers publics et la surfacturation des forages d'eau potable et des lampadaires. Quelques obstacles subsistent encore sur l'action du ministère public. Cependant, explication de Jeff Ngoy.
Il ressort du réquisitoire qu'en date du 21 avril 2021, le ministre du Développement Rural, représenté par l'ancien ministre Guy Mikoulou, conclut avec le consortium Stever Construct Cameroun SRL et Soutrado Hota, représenté par Mike Kasenga, le contrat relatif aux travaux d'installation des forages et de construction des stations mobiles de traitement d'eau de capacité de 2, 5 et 10 mètres cubes l'heure. Le ministre des Finances relève que le coût retenu dans le contrat pour les forages est très élevé. Il invite alors son collègue du développement à négocier avec le consortium pour revoir cela à la baisse. Mais il se pose quelques difficultés pour mener à bien l'action du ministère public. D'abord, la compétence du bureau d'âge de l'Assemblée nationale dont le mandat est limité pour autoriser ses poursuites. Ensuite, le ministre des Finances attend depuis le 5 mai la décision du Conseil d'État en référé liberté contre l'action du ministère public, le privant de sa liberté de circuler. Si cette décision venait de lui être favorable, la dite action pourrait s'avérer des nuls effets.
Économie à présent. Des hommes d'affaires marocains sont arrivés hier ici à Kinshasa dans le cadre d'une mission économique de 2 jours organisée en RDC par l'Agence congolaise pour la promotion des investissements. Objectif affiché, stimuler les investissements et promouvoir le partenariat d'affaires entre les secteurs privés des deux pays. Cynthia Bachizina Bizana.
Cette mission économique de 3 jours se décline en plusieurs activités, dont un forum d'affaires organisé à l'hôtel Hilton de Kinshasa, ainsi que des rencontres networking. C'est une occasion unique pour les hommes d'affaires marocains de découvrir des opportunités d'investissement offertes par la RDC. 5 secteurs clés sont visés, l'agriculture, les mines, les énergies renouvelables, les infrastructures et le secteur des services. Mais aussi pour la NAPI, il s'agit de présenter les spécificités du marché congolais avec une meilleure compréhension des réglementations et incitations fiscales en vigueur. L'objectif pour l'ANAPI est clair, accroître la visibilité de la RDC en tant que destination d'investissement. Difficile d'avoir des chiffres actuellement sur la balance commerciale RDC-Maroc, mais de manière générale, des études démontrent que le commerce total intra-africain de biens, c'est-à-dire exportation plus importation, a diminué pour atteindre 29,3% en 2020 contre environ 54,5% en 2015. Notez que cette mission économique marocaine à Kinshasa est co-organisée par l'ambassade de la RDC au Maroc. Elle fait suite à une mission économique congolaise organisée en mars 2023 au Maroc.
Cynthia Bachizina Bizana sur Radio Okapi. On enchaîne tout de suite avec l'Ituri où les sites de déplacés du territoire de Djougou existent encore à cause notamment de la présence des casques bleus qui assurent leur sécurité. Déclaration faite ce jeudi par le coordonnateur de la société civile. Dieudonné Lossa affirme que plusieurs attaques des miliciens ont été déjouées par les forces onusiennes. Il plaide en définitive pour le rétablissement de la paix afin de permettre à plus d'un million de personnes de retourner chez elles. Il le dit à Isekre Moyopé.
La province de l'Ituri compte actuellement ces 7 sites de déplacés formels, sans ignorer les autres sites non répertoriés. La population de l'Ituri est reconnaissante des contributions non négligeables de la MONUSCO en faveur des déplacés.
Actualité internationale.
Le mécanisme chargé de terminer le travail du tribunal pénal international pour le Rwanda annonce jeudi après-midi que les deux derniers suspects qu'il recherchait encore étaient morts. Il n'y a donc plus personne sur la liste des fugitifs établie par ce tribunal. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et ses deux fils Jalil et Bilal ont entamé aujourd'hui une grève de la faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont sa famille serait victime. Leurs avocats ont déposé pour cela une plainte devant le tribunal judiciaire de Paris. En réaction à cette préoccupation, le gouvernement gabonais s'est déclaré surpris, annonçant se réserver le droit d'ester en justice contre les auteurs de ces dénonciations calomnieuses et mensongères. Et puis les États-Unis d'Amérique ont annoncé hier après-midi imposer des sanctions contre deux commandants des forces paramilitaires au Soudan. Washington attend faire pression pour empêcher ses forces de lancer une offensive au Darfour.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur général de l'Office national pour la promotion de la stabilité de la famille, Désiré Iseloko, parlait du rôle de la famille congolaise dans la lutte contre le changement climatique. Il s'entretient avec Paul Matendo.
Désiré Iseloko, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous célébrez la journée internationale de la famille. Quel est exactement l'objectif de cette journée?
Je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez. Aujourd'hui, c'est une journée commémorative par rapport à la déclaration des Nations Unies depuis 1994, où on a reconnu la famille comme une cellule de base, la famille comme un moteur de développement. Une journée qui nous permet de nous rapprocher pour réfléchir sur l'importance qui revêt la famille. Et aujourd'hui, il était l'occasion pour lancer les messages par rapport au thème national et au thème international, comme on a dit, la famille et les actions climatiques, pour essayer de réfléchir et de donner les rôles que la famille doit jouer pour lutter contre les effets de ces liés au réchauffement climatique.
Réchauffement climatique, vous dites, quel est le rôle de la famille dans la lutte contre ces phénomènes, selon vous?
Bon, vous savez, aujourd'hui, l'environnement reste un élément protecteur, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous circulez dans la ville, province de Kinshasa, mais quand vous allez partout ailleurs, vous allez voir que notre environnement ne donne pas un bon paysage. Et nous pensons que c'est à travers la famille que le message devait être consommé et relayé dans toute la société. Le réchauffement climatique aujourd'hui reste incontournable à travers les effets que nous avons vécu dernièrement sur les températures hausses. Et c'est sur base de ça que nous avons voulu, à travers les différents mots qu'on a prononcés ici, que la famille puisse capitaliser ces rôles-là, puisse cerner ces défis-là, afin d'apporter l'information auprès de la communauté pour se prévenir contre les effets liés au réchauffement climatique.
5 ans après la création de votre structure, l'ONAF, quel état de lieu faites-vous de la famille congolaise?
Et aujourd'hui, le ministre a lancé l'écriture de la politique nationale, la politique nationale des familles, et nous sommes en train de travailler sur ça. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas un document référentiel, n'est-ce pas? Et avec ça, il est difficile de donner aujourd'hui la photographie des familles. On ne sait pas évaluer aujourd'hui les indicateurs de la RDC en termes de la stabilité des familles, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'il n'y a pas un document de référence, aussi longtemps qu'il n'y a pas un plan stratégique, aussi longtemps que la politique pays n'est pas encore écrite, Voilà, aujourd'hui, on vient de nous donner ces slogans-là pour essayer d'amorcer l'écriture de la politique des familles en République du Congo.
Vous parlez de la photographie de la famille congolaise. Quelle est sa structure à ce jour?
La photographie de la famille aujourd'hui reste très compromettante, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des familles qui sont aujourd'hui déstabilisées pour diverses raisons. N'est-ce pas? Je ne veux pas étaler aujourd'hui. Nous avons des problèmes, les problèmes des successions, les problèmes des enfants menés dans la famille. Vous avez les problèmes des déplacements. Et au-delà de tout ça, nous voulons donner une autre photographie de la famille au niveau du pays. La famille doit rester en union. Nous voulons que les valeurs familiales soient restaurées. Parce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quand même une déchirure, il y a quand même un écart sur les valeurs lesquelles les familles doivent se conformer. Et aujourd'hui, nous vivons beaucoup d'événements dans la communauté. Vous avez des enfants qui ont abandonné leur famille. Ils viennent des familles. Ils sont dans la rue. Et dans la rue, ils copient certains comportements sur lesquels l'éducation reste encore biaisée. Donc aujourd'hui, nous voulons que cette unité de famille soit restaurée, que les enfants qui sont dans les familles, les parents puissent prendre leur rôle dans l'encadrement des enfants, et aussi le gouvernement doit jouer son rôle sur l'appui de la politique. Parce que lorsque l'organe technique du gouvernement, qui est l'ONAF, n'a pas assez de moyens pour réussir sa politique, il y a encore beaucoup de défis à relever.
Désiré, c'est locaux, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur général de l'Office national pour la promotion de la stabilité de la famille, Désiré Iseloko, interrogé à Kinshasa par Paul Matendo. Et c'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Richard Junior Kamunga sous la supervision éditoriale de Pelé Kipelamondo.